Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nous sommes le 23 décembre, il ne reste qu'une fenêtre à ouvrir de votre calendrier de l'Avent. Et cette dernière fenêtre, je vous propose de l'ouvrir ensemble en écoutant non pas une émission, mais un condensé de pop culture. Pourquoi fais-je ça, me direz-vous? Eh bien tout simplement pour vous offrir une alternative à La Belle de Noël, le téléfilm diffusé en même temps que nous sur TF1. La Belle de Noël, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire
d'Isabella Everhart, surnommée Bella, qui se rend dans un magnifique domaine pour procéder à l'estimation de biens destinés à la vente. En arrivant sur place, Hunter, le propriétaire des lieux, un homme colérique et taciturne, lui réserve un accueil glacial. Belle décide de se mettre au travail pour en finir au plus vite. Peu à peu, Hunter s'adoucit.
Et voilà pour le pitch. Alors, à la place, je vous propose donc un pop-pop-pop spécial. Avec d'un côté l'iconique Catherine Deneuve, d'un autre côté le chanteur américain Son Little sur la scène mythique de Pop Pop Pop, et au milieu, un nouveau venu sur la scène si convoitée du stand-up, Alex Ramirez. Mais attention, avec un S au bout et non un Z, car comme le rappelle notre invité, si on tape son nom avec un Z, eh ben on tombe sur un surfeur mexicain pas content et en plus hyper baraqué. Alors, ne me remerciez pas, non, c'est juste pour vous éviter
la Belle de Noël.
Pop Pop Pop, c'est parti. France Inter.
Pop-pop-pop. Antoine de Paune.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans notre studio. À mes côtés, celle qui raffole des robes couleur de pluie en hommage à sa Picardie natale, Charline Roux.
Celle encore vous faire des ennemis. Bonjour.
Catherine Deneuve. Ici, il existe une question encore plus trash qu'une des fameuses répliques de Loïc.
J'adore cette mannequin. On dirait qu'elle va parler.
Et cette question, c'est...
Pour vous, Catherine Deneuve, c'est quoi la pop culture?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses catherinesques, denevisantes, iconiquesques et même podanisées. Et parmi mes préférées, il y a celle de Philippe Catherine Deneuve.
Moi, quand je dis pop, je pense toujours au chewing-gum. Mm-hmm. Donc, quand on fait une bulle, que ça explose,
ça claque.
Ça fait pop.
Ouais.
Après, il y a eu des chansons au chewing-gum qu'on mâche à un moment et mm-hmm. puis qu'on peut jeter sans le moindre remords. Et c'est pour moi ça, la pop culture.
Du chewing-gum, donc, pour Philippe Catherine Deneuve et pour vous, Catherine Deneuve, Philippe?
Pas du chewing-gum aussi, pourquoi pas? Parce que c'est éphémère, c'est vif, c'est présent, c'est concret, c'est aujourd'hui.
Vous avez le sentiment d'être l'incarnation, une des incarnations de cette pop culture?
Ah non, pas du tout.
Mais vous l'êtes?
Ah bon, je sais pas. Non, parce que c'est pas quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit. Même quand vous me le dites comme ça, ça me paraît pas être une évidence, non?
Mmh. Charline.
J'en suis persuadée.
Vous en êtes persuadée
oui.
aussi?
Ah ouais,
nous
bon,
en, bah,
je vais essayer de m'en persuader aussi, alors.
La pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après It Might Be Time. C'est un morceau de Tame Impala, dont le nouvel album arrive très prochainement.
Thank you.
thème Impala, It Might Be Time, cet extrait du prochain album The Slow Rush. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une reine de la pop culture, la preuve avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Catherine, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, pop, pop.
Et c'est signé Charline...
C'est de pire en pire. Aujourd'hui, une invitée que j'aime évidemment pour toutes les raisons que vous avez évoquées, Antoine, car la voix de la sagesse, c'est vous. Mmh. C'est contractuel, hein, je vous précise. Et une invitée que j'aime encore plus parce que quand elle est rock'n'roll sur les écrans, personne ne peut rivaliser. Non, personne ne se défend comme Catherine Deneuve contre Fanny Ardant.
Mais ça suffit ! Plus un geste où je tire.
Avant que tout ça ne finisse évidemment au corps à corps avec classe et une certaine volupté, c'était dans 8 femmes. Personne ne menace d'une carabine des fâcheux voulant du mal à Nekfeu comme elle le fait dans Tout nous sépare. Personne ne règne comme elle, que ce soit sur l'Angleterre, entourée de petits chiens maltraités dans Astérix au service de sa majesté, ou comme dans Palais Royal, sur un pays fictif censé être mené par son fils un peu benêt, et du coup, bah, pour la relaxation, rien ne vaut la calligraphie.
Mais hier par exemple, j'avais un petit coup de mou, j'ai fait toute une série de paix, ça m'a bien détendu.
Et je dois dire que ça me réjouit de préciser que ce rôle et donc cette phrase ont valu à notre invitée une nomination au César, qu'elle aura pas ailleurs deux fois, non pas pour ce rôle, mais pour celui d'une femme drôlement culottée, mignon euphémisme pour parler de la Marion Stenner du dernier métro, ainsi que pour son interprétation d'une autre femme à fort tempérament, celle d'Indochine. Bref, ne pouvant en si peu de temps raconter toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut aimer notre invitée, je conclurai ce sommaire portrait en disant que j'aime Catherine Deneuve parce qu'en réalité, je vous trouve très punk.
Mmh. Ah bon ?
Quel est votre degré de punkitude, Catherine ?
Je ne sais pas, on va peut-être voir ça aujourd'hui, ce soir.
Non, mais il n'y a pas de... Vous aimez jouer ?
Oui, c'est ça, je veux dire, je n'ai pas un cadre très, très, très précis autour de moi ou de ma personne. Mmh. Je peux déborder, oui, je peux me déborder, donc je peux me tromper aussi.
Et vous aimez jouer avec votre image ?
Oui, enfin, j'aime bien qu'on n'essaye pas de me fixer en m'appelant madame ou la grande... La grande dame du cinéma français, ça c'est l'expression que j'aime le moins dans ma profession.
On va essayer d'éviter, Charline. Merci. Promis. Alors, Catherine Deneuve, nous le disions, vous êtes une icône pop et la pop culture vous adore. Est-ce réciproque ? Pour le savoir, on va passer à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi « Lettre à un jeune poète » de Briefe ein einen jungen Dichter, en allemand, de Rainer Maria Rilke, paru en 1929. Charline, les lettres ont bien été postées, les avez-vous reçues ?
Ah bah non, vous savez, les vacances, les jours ouvrables, fériés, tout ça, puis c'est pas marqué la poste ici. Le livre est un guide spirituel sous forme de correspondance que Rainer Maria Rilke a écrit à l'attention d'un jeune homme qui lui avait demandé s'il devait consacrer sa vie à la poésie.
Bien. Catherine, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Je vais vous lire un extrait du livre. Tout ce que je pourrais vous dire moi-même sur votre penchant au doute, sur les difficultés que vous éprouvez à accorder votre vie extérieure à votre vie intérieure, ou sur tout autre, je vous l'ai déjà dit. Je ne puis que formuler une fois de plus le vœu que vous trouviez assez de patience en vous-même pour supporter, et assez de simplicité pour croire. Confiez-vous toujours davantage à ce qui est difficile et à votre solitude. Pour le reste... Laissez faire la vie. Croyez-moi, la vie a toujours raison. Rainer Maria Rilke.
Vous préférez lire les textes de Rainer Maria Rilke ou ceux de Loïc Prigent ?
Mais j'aime les deux. J'aime les deux.
Bon, ça général.
Non, mais c'est vrai. Non, mais ça n'a absolument rien à voir. Mm-hmm. Rilke, c'est quelque chose qui m'accompagne, si vous voulez, auquel je pense. Enfin, je ne peux pas dire souvent, mais de temps en temps, que je peux retrouver comme ça chez moi. J'ai des phrases de lui comme ça qui sont sur des choses que je peux voir. Facilement, presque tous les jours.
Ça fait partie de ces textes à ce point intemporel qu'on y
revient
toujours.
Ah oui, pour moi, oui. Puis c'est quelque chose de tellement profond et doux en même temps.
Mm-hmm. Et ces conseils qu'il donne à un jeune poète, c'est des conseils
qui sont... absolument merveilleux.
Qui sont toujours d'actualité, c'est des choses que...
Oui, parce que c'est quand même basé sur la modestie, la modestie, la patience, et surtout la modestie. Donc je trouve que c'est tout à fait, intemporel. Mm.
C'est plus difficile d'être modeste quand on est Catherine Deneuve que quand on est...
Bon, je ne sais pas, parce que je ne suis pas quelqu'un d'autre, moi. Non, mais je ne suis pas quelqu'un d'autre, donc je ne veux pas savoir. Mais moi, je suis peut-être pas la plus modeste, mais je ne suis pas immodeste non plus. Moi, je suis d'une famille nombreuse. Mmh. Donc, des filles élevées ensemble et élevées comme ça, c'est pas... Je n'ai pas eu de raison particulière, vous voyez, de perdre... la simplicité, j'espère, que j'ai dans mes relations aux autres.
Bien, alors j'ai un livre, maintenant il me faut un film. Pour le film, Catherine Deneuve, vous avez choisi La nuit du chasseur. C'est un film réalisé par Charles Laughton en 1955. Charline, Ce n'est pas vous qui n'avez que deux posters dans votre chambre à coucher, un de Robert Mitchum et un autre de moi. Que ce choix va étonner, j'espère.
On parlait quoi d'humilité il y a un instant ? Ah oui, ça c'est bien ce qui me semblait. Ceci étant, c'est pas tellement étonnant. Vous avez de vrais points communs, Antoine, avec ce pasteur psychopathe tout juste sorti de prison qui poursuit sans relâche deux gamins dans l'Amérique rurale.
Here is all the stark terror, the passion and suspense of the best-selling novel that gripped millions.
Where's the money here?
But that's why I promised John I would tell.
John doesn't matter.
The combined powers of Paul Gregory and Charles Laughton. Now the screen receives that same creative, electrifying impact. The Night of the Hunter.
La nuit du chasseur. Catherine Deneuve, vous aimez les...
Serial killer.
Un serial killer?
Yes.
Yes.
Oui, j'aime bien les films qui font un peu peur, bien sûr, oui.
Et ça, c'est un film de référence absolue, hein, La Nuit du Chasseur.
C'est à la fois un film qui fait peur et en même temps, c'est un film très, très poétique, enfin, oui. Très, très féerique. Oui. Il y a vraiment des effets d'images assez, assez incroyables. Et je me souviens, la première fois que je l'avais vu, j'avais été vraiment sidérée. Mm-hmm. Ah oui.
Mais c'est un conte. C'est un.
Oui, voilà, c'est plutôt un conte, oui.
Un conte noir.
Et un conte très sombre, oui.
Terrifiant. Très,
bon. Non, c'est une très belle histoire, magnifiquement filmée, dans un noir et blanc absolument incroyable.
Vous l'avez vu très tôt, après sa sortie?
Non, parce que je ne sais pas, il est sorti en quelle année?
55, je crois.
Oh oui, non, je l'ai vu beaucoup plus tard. Ouais. Oui, ouais.
Et ça vous a impressionné tout de suite?
Oui, ah oui. Ouais, oui, j'ai vu plusieurs fois.
Bon, petit traumatisme. Voilà, Catherine Deneuve, pour la série, vous avez choisi Le Bureau des Légendes. C'est une série créée par Éric Rochand, diffusée depuis 2015 sur Canal+. Charline, une légende qui choisit Le Bureau des Légendes. Parce que c'est pas tout à fait logique.
Pléonastique même, Antoine. Le Bureau des Légendes est un département de la DGSE qui forme et pilote des clandestins, soit des agents du renseignement extérieur français en immersion dans des pays étrangers. Le meilleur d'entre eux s'appelle Guillaume Debailly, dit Malotru, et il leur pose quelques soucis.
Une légende n'est pas éternelle. Une légende n'est pas réelle. Quand sa mission est terminée, la légende doit disparaître.
Le Bureau des Légendes, le choix de Catherine Deneuve en ce qui concerne les séries, est-ce que vous binge-watchez, comme disent les millennials?
C'est-à-dire
regarder en cascade. Une série vous fait 8 épisodes d'un coup.
C'est-à-dire, voilà, oui, c'est ouais. Ça. Moi, je peux pas regarder un épisode ou deux et puis attendre. Donc, je préfère attendre, vraiment attendre, et puis en avoir au moins 4. Mais j'en regarde pas plus de 4, hein, quand même. Parce que, au bout de 4, ça fait quand même, ça fait presque pas plus de 2 heures, donc c'est déjà pas mal.
Alors, les mérites particuliers de ce Bureau des Légendes, à vos yeux?
Je trouve qu'il est très très bien écrit, ce qui est quand même très bien écrit, avec des personnages très étonnants, et il est remarquablement interprété.
Ouais.
Tous les acteurs sont absolument formidables, vraiment. Ça, c'est d'une qualité, c'est étonnant. Et puis, c'est d'une richesse d'histoire. Enfin, moi, j'attends, je sais qu'il va y avoir encore une série là qui va sortir, j'attends ça avec impatience, je dois dire.
Et le fait que ça parle avec un écho aussi rapide du monde dans lequel on vit en ce moment.
Mais oui, justement, c'est ça qui est la force de la série, c'est qu'elle est très très contemporaine, vraiment, elle est très actuelle et elle raconte des choses que nous ne savons qu'en partie.
Mm-hmm. Vous aviez joué dans la série Nip Tuck?
Oui, j'ai fait une apparition.
Oui.
Très bon souvenir. Oui, j'ai fait une apparition. J'ai tourné 3 jours. C'était très amusant. J'aimais beaucoup la série Nip Tuck.
On vous en propose beaucoup, des rôles dans des séries?
On m'en propose un peu, oui.
Mais non.
On verra.
Bien. Terminons cette pop-list avec la chanson. Et cette chanson, c'est celle-ci.
On reste, Dieu merci, à la merci d'une étincelle. Quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel. Dès la prochaine vie, je rêve de se rester fidèle. Quelle aventure. Quelle aventure. La superbe. La superbe. La superbe.
La superbe de Benjamin Biolay, c'est extrait d'un double album du même nom paru en 2009. Alors vous avez face à vous Charline qui est en adoration, disons le mot, hein, devant un Benjamin Biolay.
C'est un des plus beaux albums.
Ah oui, je suis d'accord.
Ton héritage est la plus belle chanson sur la transmission jamais écrite.
Oui, ça c'est vraiment une chanson magnifique. Il y a aussi la chanson sur la séparation. Il se
rentre Rhapsody.
Oui.
Les post-it sur le frigo.
Oh, je trouve qu'elle est vraiment écrite d'une façon, cette chanson. Moi, c'est un album que j'écoute souvent. régulièrement.
Ah, c'est l'album que vous choisissez, c'est pas la chanson en particulier, la
C'est superbe. Cette chanson-là, c'est aussi ton héritage, enfin c'est... oui, c'est plutôt l'album, oui.
Et alors, Biolay supplante Gainsbourg.
Mais Gainsbourg, on l'entend beaucoup. Ah, vraiment, on l'entend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup entendu. Non, mais j'adore Gainsbourg, c'est pas le problème. Mais cet album, quand je l'ai entendu, il m'a apporté quelque chose, il m'a mis dans un état de fébrilité et de joie en même temps, incroyable. Donc c'est vraiment un album que j'adore réécouter avec ces deux chansons-là particulièrement, oui.
Bien, je crois que ma pop-list est complète. Je résume, Lettre à un jeune poète, La nuit du chasseur, Le bureau des légendes et Benjamin Biolay. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture.
Et qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien, ça donne ça.
Une légende n'est pas éternelle.
On reste, Dieu merci, à la merci d'une étincelle.
Une légende n'est pas réelle.
Here is all the stark terror.
Quelle aventure.
The passion and suspense.
Confiez-vous toujours davantage à ce qui est difficile et à votre solitude. Pour le reste, laissez faire la vie.
Quand sa mission est terminée, la légende doit disparaître.
La super.
Et voilà la recette de Catherine Deneuve.
Ah, vous êtes très fort pour le mixage.
Un petit cake d'amour de pop culture.
Oui, ça me plaît très, ça me plaît beaucoup ça.
Écoutez, c'est Gisela Fontana qui rosit derrière sa vitre.
Oui, c'était quand même rapide.
Oui, c'est très rapide, c'est un garçon très rapide. Alors Catherine Deneuve, avant de parler de vous avec vous, on va écouter un artiste avec lequel vous avez joué Nekfeu en featuring avec Vanessa Paradis sur ce morceau, C'est dans l'univers.
Dans l'univers, y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
France Inter, le maxi best pop pop pop. Antoine Decaune.
Oh, j'ai l'impression qu'il est un peu mou du genou, mon lancement là. Oui. Comment ils font les Américains?
Is a legend of the cinema. Please welcome Catherine Deneuve, everybody.
Ouais, bon, d'accord. Évidemment, c'est mieux. Évidemment, d'accord. Alors, Catherine, vous faites partie de ces gens que l'on a envie d'inviter pour le seul plaisir de passer une heure en leur compagnie, quel qu'en soit le prétexte. Et aujourd'hui, le prétexte est double, puisque vous êtes à l'affiche de Fête de Famille, le nouveau film de Cédric Kahn, et présidente du Festival du film américain de Deauville, sans même parler de La Vérité, le film de Kore-eda, avec lequel vous avez ouvert la Mostra de Venise il y a 3 jours, film dans lequel vous jouez le rôle d'une actrice excessive. Fin de citation. C'est quoi d'ailleurs une actrice excessive ?
Dans le cas du film de Kore-eda, je dirais que c'est une actrice un peu une actrice comme moi, j'imagine, et pouvait être les actrices dans les années 50 aux États-Unis, enfin très... très, très auto-centré, mais à un point vraiment... Et puis qu'il y a un franc-parler en même temps, enfin c'est assez horrible, quoi. Elle peut dire des choses assez horribles. Elle a des très mauvaises relations avec son entourage et surtout avec sa fille.
Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui.
Pas à ce point-là, je pense pas, non.
Non.
Je peux pas imaginer que ça existe à ce point-là.
Ça a basculé dans la musique.
Vous avez des noms en tête ?
Maria Carré.
Oh. C'est audacieux comme, enchaîner, comme enchaîner comparaison. Joueurs, oui. Vous dites, j'ai toujours autant de joie et de peur à débuter un tournage. Alors avant de vous glisser dans la peau d'Andrea, votre personnage dans Fête de famille, qu'est-ce qui vous faisait peur et qu'est-ce qui vous mettait en joie ?
Alors, ce qui fait peur, c'est toujours de commencer un nouveau film, franchement. Et en même temps, ce qui m'attirait, c'était le fait de tourner un film avec beaucoup d'acteurs, donc on soit vraiment comme une équipe une troupe de tournage, de théâtre plutôt, je veux dire. Donc c'est ça qui m'attirait, mais en même temps, c'est ça que je redoutais un petit peu. Et ce qui me met en joie, c'est à partir du moment où on est sur le plateau, qu'on commence à répéter, que on voit la scène. Et puis bon, Cédric Kahn est quelqu'un de très chaleureux, donc c'était vraiment, il y avait une ambiance formidable, parce que c'est vraiment ce qu'il veut, et en même temps c'était très vivant et très simple, et sans, mais il était très exigeant, et comme il y avait beaucoup d'acteurs dans le film, presque toujours ensemble, il avait beaucoup préparé le film, d'autant plus qu'il joue un de mes fils dans le film, donc c'était quand même assez lourd comme rôle.
Dans Fête de famille, vous partagez l'affiche avec Emmanuel Berco, Vincent Macaigne et Cédric Kahn. Donc, et ce n'est pas de vous que vient l'excès. Vous êtes même plutôt celle qui essaie de calmer le jeu et de faire la paix.
Oui,
est-ce que c'est un rôle de composition ?
Pas tout à fait. Moi, je suis du signe de la balance. J'aime bien que les choses soient assez équilibrées. J'aime pas, enfin, équilibrées, qu'il n'y ait pas trop de... Enfin, surtout dans des circonstances comme ça. C'est une réunion de famille pour un anniversaire, le mien d'ailleurs en l'occurrence. Donc on a envie que les choses se passent à peu près bien, mais de toute façon on sent bien que c'est une femme qui a dû quand même beaucoup essayer d'arrondir les angles tout le temps, qui a une fille qui est quand même assez particulière. Il y a sûrement des choses qu'elle n'a pas voulu voir et sur lesquelles elle est passée. Et puis elle a un fils aussi qui est assez aventurier, parce que le rôle le personnage de Vincent Macaigne, enfin moi j'adore, il est très drôle, mais c'est quand même très excessif.
Qui lui-même met en scène, en fait.
Oui, le déjeuner de famille, oui.
Repas,
oui.
Et vous la voyez d'ailleurs purement comme une femme qui tente d'apaiser, de soigner, ou aussi comme une mère un peu toxique à sa façon.
On est toxique quand on réussit pas à être soignante, hein, quand même. On est un peu toxique parce que le rôle des mères, ce serait quand même d'empêcher justement. Oui, je crois qu'on est tous un peu toxiques de toute façon. Même ceux qui sont les mieux intentionnés. Peut-être même ceux qui sont les mieux intentionnés.
Sont les plus toxiques.
Il ne faut pas en faire trop, oui.
Le jour de votre anniversaire, donc, votre fille aînée, disparue depuis 3 ans, fait une soudaine réapparition, décidée à prendre ce qui lui est dû. Cette réapparition va bouleverser la famille et raviver les tensions. Bande annonce.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. On est bien là, non ?
J'ai l'impression que ça vous arrange bien de penser qu'elle est folle.
Si, je t'assure, elle est 100% folle.
Bon bah alors on vend.
Tu veux pas qu'on en discute tranquillement tous ensemble ?
Je fais ce que je veux.
Ça va partir en sucette exactement comme d'habitude.
Ça va ?
Ça, non, ça ne va pas, maman.
C'est l'angoisse. Cette maison, cet anniversaire, cette famille.
C'est quand même quelque chose de nous voir tous réunis avant que tu passes l'arme à gauche.
Alors curieusement... Il y a un point commun entre la vérité que vous venez de présenter à Venise et Fête de famille. Il s'agit des retrouvailles entre une mère et sa fille. Illustration dans les deux cas de l'expression « faire sa fête ». C'est toujours tendu les rapports mère-fille ou c'est pour les besoins du scénario ?
Écoutez, moi personnellement, c'est tellement pas, je veux dire, mon univers dit ce que j'ai vécu, dit ce que je vis, qu'évidemment, pour moi, j'ai toujours l'impression, là, franchement, c'est un rôle de composition. Mais ça peut être tendu par moments, mais bien sûr, quand on a des relations un peu fusionnelles, c'est évidemment plus compliqué. Mais non, moi j'ai plutôt eu des relations très 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 heureuses et très très positives avec ma fille.
Il n'y a pas qu'entre Andrea et sa fille que les rapports sont compliqués. Sans poser de diagnostic trop hâtif, on peut parler de famille un peu dysfonctionnelle. Ils sont à la fois très violents, les rapports au sein de cette famille sont aussi très drôles étrangement. C'est le double aspect qui vous a aussi séduite,
oui,
dans leur rapport.
Oui, absolument. C'est ce qui me plaisait beaucoup dans le scénario. C'était cette espèce de mélange, cette brusquerie à changer d'un seul coup de ton, qu'une chose qui était partie pour être une chose comme ça, anecdotique, devienne une espèce de drame qui se termine très mal. Oui, parce que dans les familles, quand on est nombreux et réunis comme ça à l'occasion de fêtes, c'est souvent ce qui se passe, quoi, quand ça dérape.
C'est une hantise, en fait, ces fêtes de famille, quand on y réfléchit.
Oui, mais moi, je serais un peu comme le personnage du film, Andrea. Je pense qu'il faut quand même essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, souvent, les plus jeunes, après la génération plus jeune, disent « Oui, mais alors, on ne se parle pas vraiment, personne ne dit vraiment ce qu'il pense, on n'est pas vraiment... Oui, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour passer un moment ensemble. » C'est une façon aussi de revivre un peu les souvenirs du passé et de la vie qu'on a eue et qu'on idéalise un peu.
Ouais.
C'est en ça qu'ils sont très surprenants, parce qu'ils parlent tous beaucoup, mais ils ne se disent rien.
Mais comme souvent dans les réunions de famille nombreuses.
Le film de famille est presque devenu un genre en soi, hein, si l'on considère le nombre de films qui jouent sur ce principe, de Festen à Un air de famille, en passant par Milou en mai, La famille Adams, La vie est un fleuve tranquille, La famille Bélier, bon, il y en a plein. Aller voir une famille régler ses comptes au cinéma, c'est reposant au bout du compte, ça console le spectateur.
Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Je ne sais pas, moi je sais que quand j'avais vu Festen, j'avais eu un choc terrible. Donc c'était vraiment une idée vraiment de la famille tout à fait. Mais c'est-à-dire que c'est sans fin. On peut, je crois, raconter, on pourrait montrer 10 films sur la famille et je pense que ce serait 10 films différents. Mm-hmm. Parce que c'est sans fin les rapports et les difficultés de se parler ou de ne pas se parler ou de faire rejaillir le passé ou d'envisager le futur. C'est un domaine très riche. Mm-hmm.
Mais c'est devenu un genre en soi.
Oui, mais je peux comprendre, oui.
Avec sa grammaire, avec ses codes, avec...
Oui.
Et dans le registre des films sur la famille, quel est, vous, votre film de référence ?
Sur la famille ?
Oui.
Ah. Voilà une question... C'est une question vaste en même temps. Mmh. Donc je cherche un film sur la famille qui m'aurait... Je ne sais pas. Je ne veux pas dire les filles du docteur Marsh, quand même.
ça fonctionne.
Non. Non, là, franchement, je vois pas.
Bon, qui dit famille dit névrose. Le cinéma est une grande famille, hein, comme on dit souvent. Un petit bilan de 2019 sur l'état des névroses du cinéma français.
Une grande famille, c'est vite dit, hein, quand même. Ce sont quand même beaucoup des familles avec des éléments rapportés, donc c'est pas tout à fait la grande famille qu'on imagine, mais c'est quand même l'image toujours qu'on veut donner de toutes les professions. D'ailleurs, quand elles font des fêtes de fin d'année, on a l'impression que le PDG va embrasser sa secrétaire, qu'il l'embrasse comme ça tous les jours. Le garçon du bureau d'à côté, qui est jaloux comme un fou, va être d'un seul coup complètement au genou de sa voisine et qui est en vérité sa concurrente. Non, s'il y a quand même une façon de montrer la famille en général, qui est quand même pas tout à fait la vérité. Donc la grande famille du cinéma, elle est comme les autres. Je veux dire, elle est très hypocrite aussi.
Traversée par les mêmes courants.
Oui, et puis hypocrite. Mmh. Hypocrite.
Fête de famille, c'est un film où ce sont les femmes qui mènent la danse. Il était temps, dit Cédric Kahn. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Ben oui, c'est vrai. Mais enfin, on sait bien que dans les familles, la mère est toujours quand même le pivot central de la famille, en sachant qu'après ça, le film peut très bien s'écarter complètement et partir dans des directions qui n'ont plus rien à voir avec... Mais c'est vrai que la mère reste toujours quand même au centre de la famille. Le matriarcat, c'est pas fait pour les chiens. Hein.
Vous avez eu le loisir, au fil des années, Catherine, de voir évoluer la cause des femmes dans le monde du cinéma. Est-ce que vous pensez que les choses bougent dans le bon sens et surtout suffisamment rapidement ?
Écoutez, je trouve qu'en Europe, on est quand même mieux loti qu'en Amérique, parce qu'en Amérique, c'est vrai que c'est quand même très excessif et c'est très marqué. Je pense que les choses bougent. Oui, bien sûr que les choses bougent suffisamment. Ça revient de loin quand même. Ça, il y a beaucoup de choses à faire, à abattre quand même avant d'arriver, ne serait-ce qu'à l'égalité salariale homme-femme, qui serait quand même la chose qui serait la plus évidente quand même d'une société très évoluée. Mais ça bouge. Oui, ça bouge.
Votre fille dans le film est incarnée par Emmanuel Berco, qui vous a déjà dirigé 2 fois, bientôt 3 si je ne m'abuse. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre manière de jouer ensemble ? Et qu'est-ce qu'elle a comme réalisatrice que les autres n'ont pas, puisque vous allez donc retourner avec elle une 3e fois ?
Alors ça a sûrement simplifié, facilité je dirais même plutôt les choses, parce que c'est vrai que je la connais, je la vois dans la vie. C'est pas seulement quelqu'un avec qui j'ai tourné 2 fois, c'est quelqu'un que je vois maintenant depuis plusieurs années. Et c'est une personne à laquelle je suis très attachée. J'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup ses films, j'aime son univers, et j'aime beaucoup le fait qu'elle travaille énormément. Donc ça peut paraître un peu idiot de dire ça, mais sur le plateau, quand on arrive pour répéter, elle n'abandonnera jamais, elle fera autant de prises qu'il le faut, et elle travaille beaucoup en amont, donc elle est vraiment, c'est comme, quand elle est sur le plateau, c'est vraiment, elle est comme un petit chef de guerre, hein, elle est très entière et très excessive même parfois. C'est vraiment. Mais j'aime beaucoup son univers et j'aime beaucoup la façon dont elle montre les choses. J'aime ce dont elle parle. Voilà, je crois que j'aime toute cette femme.
Catherine Deneuve, depuis 8 femmes de François Ozon, on ne vous avait pas revue dans un film choral comme Fête de famille. Quel plaisir particulier prenez-vous à ne pas avoir à porter seul sur les épaules un film ?
Mais c'est pas tellement le fait de porter le film, parce que ça, finalement, quand on tourne, on est tellement concentré sur ce qu'on fait, là, les scènes, qu'on n'y pense pas vraiment. Mais c'est le plaisir de jouer avec plusieurs acteurs, d'être avec d'autres acteurs, et le fait qu'en effet, on n'est pas au centre, disons, de l'attention tout le temps. Mmh. Donc ça, c'est assez agréable, oui.
Vous avez joué plus de 120 rôles. Vous avez été aveugle, muette, amputée, meurtrière, vampire, mère de famille, fille mère, lesbienne, alcoolique. Mais finalement, vous dites que le rôle le plus courageux que vous ayez incarné, celui de mère de famille, car je vous cite, c'est plus difficile de faire passer les choses. En quoi est-ce plus difficile ?
Alors, je parlais de quel film ?
De celui-là, en l'occurrence.
Ah, de celui-là ? Oui. Mais oui, parce que j'ai pas grand-chose à faire de particulier, disons, dans cet univers. Donc, c'est plus difficile d'une certaine façon, parce qu'il y a moins d'occasions de faire une démonstration de ce que l'on est ou de ce que l'on pense ou de... Donc, oui. Enfin, ceci dit, plus difficile, il y a quand même certains films que vous avez cités qui ont été quand même très difficiles. L'alcooliste, je trouve que c'est très difficile parce que c'est une tentation qui peut aller très vite dans l'excès et c'est très difficile, je trouve. C'est très attirant, hein. Tous les acteurs ont envie de jouer ou les actrices un jour un rôle d'alcoolique. Mais je trouve que c'est très délicat. C'est très intéressant.
Est-ce que tous les alcooliques ont envie de jouer le rôle d'un acteur ?
Je ne sais pas.
C'est une question stupide.
Il y en a.
À Deauville, des noms, Catherine Deneuve. À Deauville, où vous allez être présidente, je paierai très cher pour être une petite souris quand Catherine Deneuve va se retrouver immanquablement à dîner avec Jenna Rollands. Qu'est-ce que Deneuve et Jenna Rollands vont
pouvoir se raconter ? Ça, c'est
une belle surprise.
Oui. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais enfin, c'est évident que j'aurai des choses à lui dire. C'est une actrice que j'admire beaucoup.
Imaginez que je suis Jenna Rollands.
Ce sera privé, je veux dire, je vais pas d'emblée l'attaquer comme ça en lui posant des questions sur ses films et tout ça, non. C'est ça qui est agréable, c'est au cours d'un dîner, on a le temps quand même de se parler autrement et puis ensuite d'aborder des choses plus personnelles.
Elle fait partie de vos actrices emblématiques, je sais que vous aimez beaucoup Meryl Streep.
Oui, beaucoup, oui.
Il y a qui dans cette liste ?
Dans cette liste, il y a Kim Basinger.
Oui.
Que je trouve on ne voit plus assez au cinéma, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est la seule actrice qui me rappelle vraiment Marilyn Monroe, d'une façon vraiment véritablement pas seulement pour son physique, mais pour sa façon de jouer, sa façon d'être. Il y a une espèce de douceur comme ça. Donc voilà. Bon, il y en a beaucoup, des acteurs et des actrices étrangers, américains ou anglais, oui.
À la question, avez-vous des tabous cinématographiques ? Vous aviez répondu oui, les films gore et les films ordinaires. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, je suis pas une fan des films gore, ça c'est sûr. Oui, non, je suis pas. Alors, j'aime beaucoup les films de Tarantino, donc je vais les voir quand même, évidemment. Mais il y a des moments où je vois ce qui arrive et je baisse les yeux. Oui, ça, je dois dire que c'est. Mais je vais quand même voir ces films.
Et un film ordinaire ?
Ben, un film ordinaire. Alors là, j'ai rien à dire. C'est un film qui. C'est un film qui est. Je sais pas. Un film sans ambition, sans parti pris, sans où je ne sens pas le metteur en scène. Vouloir particulièrement quelque chose plus qu'une autre. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est une chose sans intérêt, quoi.
Catherine Deneuve, vous restez avec nous. On écoute Lebanon. C'est un nouveau morceau de l'artiste kényan J.S. Ondara.
In the water, fire, I'll go. In the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go. Since you heard from Jesus of his chosen man, hey, love, you twist and turn till your colors wither, then there'll be no man. doesn't fear open up. I shan't be like Canada. Oh, Lebanon. Oh, Lebanon. Life is brief, don't say long. In your constant fear open up. I shan't be like Canada.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune sur France Inter.
C'est beau ça, Lebanon. C'est un morceau de J.S. Ondara, cet extrait de l'album Tales of America. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Couple, low cost et billets réduc sont les premiers résultats qui tombent lorsqu'on tape votre nom sur Google. Alex Ramirez avec un S au bout. Alors aujourd'hui, nous allons parler de low cost et de sensiblement viril. Aucun lien entre les deux. Votre nouveau spectacle. Vous dites que sensiblement viril est un nom masculin singulier. Masculin pas forcément singulier, évidemment. Et que ça parle d'un individu qui s'assume en toute contradiction situé quelque part entre ténébreux et flamboyant, extraordinaire et banal, beauf et précieux, chevalier et princesse, croustillant et, moelleux, sucré et salé. On peut donc être beauf et précieux.
Évidemment, j'en suis la preuve fort belle. On peut se dire, ah non, non, j'ai pas envie de sortir et rester en claquettes chaussettes tout en écoutant du Britney Spears par exemple.
Claquettes chaussettes vraiment.
Ouais, malheureusement. Ouais. Mais oui, parce que les deux sont confortables. Enfin, ah, y a une espèce d'alliage.
Pourquoi ce statut d'amour?
Claquettes chaussettes. Ah oui, je vous le confirme.
Ah ouais. Oui. D'accord.
Voilà, donc c'est, je voulais parler de toutes ces notions où finalement, quand on parle d'homme, on va, soit c'est quelqu'un qui fait tout exploser dans des films, ou soit c'est quelqu'un qui va dire « Ah là là, ma chérie, t'es magnifique dans cette robe » et qui va conseiller sa meilleure amie dans une comédie romantique. Et bah, j'avais envie d'être, de jouer avec ces clichés plutôt que de les appuyer. Souvent, on fait rire en appuyant les clichés. Moi, j'avais envie un peu de les casser, un peu de les dépoussiérer et de dire qu'on pouvait être qui on veut et surtout quelqu'un d'imparfait.
Et être les deux, surtout.
Et être les deux, exactement.
Bien sûr.
Et vous vous interrogez beaucoup la notion de virilité. Quelle définition est-ce que vous lui donnez, vous, à ce mot?
Oh là là.
Et des exemples de virilité?
Alors là, ça veut... maintenant, ça veut plus rien dire et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, étymologiquement, virilité, vir, l'homme... C'est très lié à l'homme, mais maintenant, je sais pas, moi je trouve Ezra Miller, qui est un acteur très queer, pour moi est très viril.
Flash.
Flash, voilà, qui met très viril, surtout quand il met du rouge à lèvres. Pour moi, ça va faire un effet contraste. Après, voilà, j'ai l'impression que la virilité en ce moment est la notion de virilité, ou en tout cas le mot, est devient flou, et c'est tant mieux, je pense.
Iriez-vous jusqu'à dire, Alex Ramirez, que vous êtes une terre de contraste?
Oui, deux salles, deux ambiances, je dirais.
Votre animal totem, ou en tout cas celui qu'on voit projeté sur le rideau du spectacle, est une licorne. Sur l'affiche du spectacle, on vous voit t-shirt remonté façon pub pour du soda dans les années 90, mais vous faisant tatouer la même licorne. Quelle est pour vous la symbolique de cet animal censé signifier la pureté et la grâce?
Oula, alors pour certains députés, ça serait le diable et la propagande LGBT. Non, pour moi, c'est... pour moi, déjà, c'était le fait que ce soit un tatouage, en fait. Ouais. C'était vraiment la dichotomie, vraiment le côté « je me fais tatouer et mets une licorne ». En fait, c'est, on voulait vraiment aller dans les contrastes. Donc, puis c'est un animal imaginaire, c'est un animal qui est... On a l'impression de le connaître.
Si, Antoine, ne lui dites pas. Il y en a, bien sûr.
Alex, vous êtes donc beauf et précieux, sucré et salé, et ce sucré salé fait référence au brunch, une religion chez les gays, dites-vous. Mais expliquez-moi en quoi un brunch est gay.
Et ben alors ça, c'est les grands mystères. J'en suis qu'au premier spectacle qui parle de ça, j'ai pas encore fouillé, je vais aller sur le terrain. Mais c'est cliché, mais j'avais envie de jouer avec ça. Oui, je l'ai dit, c'est vraiment notre religion. Jésus, Marie, Mouillette, on y va. Je pense qu'on a... Peut-être que dans l'histoire des gays, on était jetés dehors par les églises, par toutes les donc on allait manger et on allait manger à cette heure un peu bâtarde qui est 11h, on avait faim, on voulait du sucré, on voulait du salé et on s'est dit
ça
tiens, un œuf sur un toast avec un petit fondant au chocolat et le brunch est né.
Alors de la messe donc.
Peut-être.
Ah d'accord,
c'est mon histoire. Hein,
vous passez en revue pas mal de nos travers et manies, le brunch en fait partie, tout comme la sacro-sainte inscription à la salle de sport qui a l'air d'être un véritable trauma pour vous.
Ouais. J'ai pas encore compris pourquoi j'y vais.
Mais vous y allez vraiment ou pas?
J'y vais, je pense que ça se voit. J'ai failli péter la table, rien qu'en m'asseyant. Non, en fait, oui, j'y vais, mais c'est cette espèce d'attirance-répulsion qui a cette espèce de... presque le côté cliché du gay qui va faire gonfler ses pecs parce qu'il veut aller en boîte le samedi, sauf que moi, je vais pas en boîte le samedi en plus, donc ça sert à rien.
Venez une vie de patachon.
Je vis une vie de patachon, je trouve ça très superficiel. Enfin, faut pas oublier que pendant qu'on fait nos triceps, il y en a qui lisent des livres ou qui trouvent des vaccins. Enfin, c'est vraiment être conscient de ça, quoi. Et en même temps, je peux pas m'empêcher d'aller. Je dis, oh, je me donne des fausses excuses. C'est pour me maintenir en forme. J'ai pas encore réglé ce problème.
Vous expliquez dans le spectacle que vous avez presque été déçu, hein, je vous cite, de la réaction de votre famille à votre coming out, sauf peut-être votre frère qui vous jalouse.
Ah bah tellement, que je sois tranquille, pépère entre mecs, alors qu'il est coincé avec une femme et deux petites filles à jouer à la dinette. Oh la honte, il doit être dégoûté. Mon frère, c'est simple, ça fait 4 ans qu'il se mate la Reine des Neiges tous les matins et qu'il boit son café dans les tasses Hello Kitty. Alors, c'est qui la tarlouse? Remarquez, je dis ça, il y a peut-être plein d'autres personnes que ça dérange de me savoir avec un mec, hein, ça arrive, bah déjà toutes les filles. Si, qui sont quelque part un petit peu déçues. Putain, Ricky Martin, le mec de Prison Break maintenant, Alex Ramirez? Non! Ils nous les prendront donc tous! Oui, le mec de Prison Break, si vous saviez pas. Il est dans notre équipe.
J'aime le fait que vous ne vous lanciez pas sur la prononciation du mec de Prison Break. Allez-y alors, il s'appelle comment?
Wentworth Miller.
Wentworth Miller. Votre famille, Alex, a totalement accepté votre homosexualité. Votre grand-mère vous a même dit, les homos, c'est comme les canapés, il y en a un dans chaque famille. Et c'est pas elle qui devrait faire du stand-up en fait?
Si, il y a même une deuxième phrase de ma grand-mère, ce mec, qui dit... quand on sue l'arrêt des fesses, ça devient un vrai canal. Voilà. Bah moi, je les prends en l'état.
Je veux rencontrer votre grand-mère.
Non, il y a pas de réécriture, il y a pas de. Non.
La musique occupe une grande place dans le spectacle. Alors, quelle importance est-ce qu'elle a dans votre vie? Parce que si on se fie au spectacle, on est quand même pas loin de la comédie musicale. Hein.
Ouais. Et en même temps, jamais dans cette espèce d'outrance de Cause you never ever. High School Musical, moi, non. Ça a tendance un peu à m'énerver. C'est plutôt une bande son. Plutôt, voilà, dans la cinématographie de la chose, je chante pas sur scène d'ailleurs, parce que je n'ai pas ce talent. Mais c'est vraiment le. Je trouve que ça appuie tellement d'émotions, ça en procure que je trouvais ça dommage de s'en priver. C'est un one man show, c'est un spectacle que j'aime appeler complet parce que justement, ça danse aussi. On rit, mais pas que. Et je trouve ça intéressant, la musique aussi aide à ça. Et il y a de la musique, exactement.
Tout commence, peut-on lire sur le programme, quand Alex Ramirez naquit. Vous avez trouvé que votre conception et les 9 mois qui ont précédé votre venue au monde étaient encore trop intimes. Vous ne vouliez pas tout dévoiler d'un coup, peut-être?
Je pense que j'étais pas prêt, j'étais encore en brainstorm personnel sur ce que j'allais être.
Alors, d'ailleurs, est-ce que vous avez vraiment la sensation de vous raconter sur scène ou est-ce que c'est une version romancée?
C'est
de la vie d'Alex Ramirez.
Ma vie, mon œuvre. Non, je pense que c'est tout part de quelque chose de vrai. Mais des fois, c'est juste une phrase et ça, on a fait un sketch. L'agent immobilier, c'est vraiment parti d'une seule phrase. Plein de choses comme ça. Et après, non, c'est vraiment, il y a une grosse notion de sincérité. Je trouvais ça intéressant pour ce spectacle vraiment d'aller à fond dans la sincérité. Et après, bien sûr, on extrapole et on exorcise plein de peurs, plein de choses comme ça, comme justement la peur de s'engager, la peur de s'installer à deux. Le premier rendez-vous quand on est nul, c'est des choses vraies qui se sont passées. Je me suis vraiment pris des moments de loose intense, puis après on tire le fil.
Ce troisième spectacle arrive après Alex Ramirez est un grand garçon et Alex Ramirez fait sa crise. Après l'enfance et l'adolescence arrive donc sensiblement viril. Mais attendez, là c'est clairement... Allez-y Charline.
Ah, j'ai le droit?
Oui.
Le spectacle de la maturité?
C'est celui de la sincérité avant tout. Je pense que là, voilà, on m'aime ou on me déteste, mais en tout cas, je laisse pas indifférent. Avec moi, ça passe ou ça casse. Et pour les autres phrases, vous regardez les anges. Hein.
Alex Ramirez, vous faites également des vidéos avec votre chaîne YouTube, des vidéos low cost dans lesquelles vous rejouez des scènes de dessins animés ou de films, mais avec les moyens du bord. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de moyens à bord. Mais attendez. Est-ce que nous ne tenons pas là une nouvelle définition de la pop culture?
Ah bah là, totalement, ça m'en rend hyper heureux que vous disiez ça. Bah c'est totalement ça, ça veut dire c'est... J'ai tellement mangé de pop culture que je la régurgite en matière carton, et surtout en matière... Enfin, il y a un mimétisme total, c'est-à-dire que c'est, on reprend plan par plan des scènes de films cultes, des génériques, qui sont alors totalement liés à la pop culture, ça va être des Disney, des séries, des vieux génériques, Beverly Hills, tout ça, et même des clips. C'est totalement mon univers, c'est pour ça que je suis très content d'être là.
Mais c'est un petit côté d'ailleurs, soyez sympa, rembobiné. On revient à Gondry, vous amusez un peu à suéder des...
Vous
dites que s'il en manquait une partie dans le film, on pourrait les remettre. Enfin, pour la petite sirène, ça se verrait peut-être quand même un peu. Parce que...
Oh, je sais pas, on a la même...
Elle n'a pas de barbe, la petite sirène.
Oui, faut... Oh, vous êtes terre à terre,
Ah bon?
Non, c'est dans une autre version. Mais ça, c'est pareil, c'est comme la licorne, je vous expliquerai après.
Elle n'a pas de barbe, la licorne, non plus.
Enfin,
des vidéos, Alex Ramirez, qui totalisent 85 millions de vues et ont fait le tour de la planète pop, notamment grâce au site américain 9gag. Est-ce que c'est pas dur de se dire que le low cost fait plus vendre que le cost?
Je pense qu'on est arrivé à un point où, alors là, ça va être la petite minute environnement. On a tous gaspillé. Maintenant, il faut réutiliser la récup. J'ai regardé des défilés sur la Fashion Week. Ils ont tous ce mot. Oui, ça faut quand même 10 000 euros le pantalon. Hein, mais oui, c'est ça. Je pense que c'est on s'est réapproprié toutes ces images qui nous faisaient rêver. Et moi, c'est vraiment ces séquences-là que j'ai choisies. Pas parce qu'elles étaient... Bon, elles sont très connues. Mais parce que j'avais envie d'en être. Je voulais être dedans.
Bien. Sensiblement viril, c'est le spectacle, le troisième d'Alex Ramirez. Et c'est au théâtre Trévise, oui, tous les mardis et mercredis. Et toutes les dates sont bien entendu à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Bonjour Son Little.
Bonjour.
Son Little, c'est votre nom de scène. Pourquoi avoir choisi ce pseudo qu'on pourrait traduire par fils petit?
You know, it started as a joke.
Ça a commencé comme une blague. Un copain à moi, avec lequel je travaillais, n'arrêtait pas de m'appeler Little Son. Ça m'a pris quelques mois pour me rendre compte qu'il voulait dire qu'il prononçait Little Son, pas Livingston. J'ai dit bon, laisse tomber. Mais il continuait à m'appeler comme ça. Du coup, j'ai décidé simplement d'inverser les deux mots et de m'appeler ainsi.
Eh ben voilà, j'ai l'explication. Bon, en janvier prochain, vous sortirez votre troisième album dont vous venez nous donner un aperçu, toujours dans la même veine. Hein. Alors, comme on vit une époque où on aime bien mettre des étiquettes sur tout, mais vous, votre musique est au croisement de plein de courants. Comment est-ce que vous définiriez votre style? Est-ce que, plutôt, je vais le dire autrement, est-ce que vous avez l'impression de décloisonner les genres avec la musique que vous faites?
I'm just a very stubborn person.
J'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez borné, en fait.
I've always liked,
j'ai toujours aimé
all different styles of music,
tous les genres de musique
that all influence me, and
qui m'ont tous influencé.
I just refuse to let myself,
je refuse
be poured into a box,
de me laisser effectivement étiqueter, de qu'on me mette dans une petite boîte.
Bon, Son Little, vous nous avez promis un titre, donc je vous invite à rejoindre, s'il vous plaît, la scène mythique de Pop Pop Pop. Vous vous installez. Dès que vous êtes prêt avec votre guitare, vous me faites un petit signe et je vous lancerai le pop de départ. Mais Harold, arrêtez de tout lui traduire au fur et à mesure, sinon il n'ira jamais. Ou alors accompagnez-le jusqu'à la scène. You can go.
Arrêtez de parler alors.
Installez-vous. Et on va écouter la fameuse chanson. Je ne peux pas arrêter de parler, sinon ça fait un blanc à l'antenne. On va écouter cette fameuse chanson qui convoque
Rose, la
fameuse muse. Enfin, on ne saura pas si c'est un être imaginaire ou réel. Peu importe, rêvons. Nous sommes là pour rêver. Vous êtes prêts, Son Little? Oui? Ok. Et yep. C'est parti.
There's a big brass band in the park today. Those alone notes speak what my mouth can't say. Can I read you every letter, turn you every page? Can I hold you till these dark dreams fade? Hey, Rose, your soul is the picture, but your body is the frame. But the frame is exquisite. I'll steer these wheels on down the road all night from New York to Ohio. Can I drive you to California, drive you over Spain? Can I take you to the place where the dolphins play? Hey baby, can you hear me darling? Can you see it, baby? Do us both a favor. Stay while I rebuild the world on paper. Oh, your soul is the picture, but your body is the frame. But the frame is exquisite, and you taste just like your name. Ha ha. We'll talk to touch tones, no telephones. I reach the front door, nobody's home. Can I listen to your heartbeat, hear you every moan? Can I stay right here in your garden, love, hey, Rose? Well, your soul is the picture, but your body is the frame. But the frame is exquisite, it ain't taste just like your name. Your soul is a picture, but your body is the frame. But the frame is exquisite, it ain't taste just like your name. Your soul is a picture, and your body is just a frame. But the frame's so exquisite, and you take just like your name. There's a big brass band in the park today. Those alone notes speak what my mouth can't say. I indulge your every pleasure, engaged in lover's games. Can I hold you till these dark dreams fade?
Rose sur France Inter, un morceau joué live dans notre studio par Son Little sur la scène de Pop Pop Pop. Merci à tous, merci à Catherine Deneuve, Alex Ramirez avec un S et Son Little qui était aujourd'hui à l'affiche de ce Maxi Best Pop. Merci aussi à toute l'équipe de Pop Pop Pop. Demain dans l'émission, on vous propose un Maxi Best Pop avec Iggy et le groupe britannique Temples. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, à Yeuve ou une Yeuvesse, à la pointe, suivez-nous plutôt, comme dit Biggie Pop, le perroquet d'Iggy Pop, à la fin de ses tutos sur YouTube. Alors ça veut dire abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, hein, comme disent les milléniaux, le 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.